Lizzie présente Dans l'ombre du loup d'Olivier Merle, lu par Bruno de Brandt. Se vire loup parfait et friand de tuerie. La Fontaine. Janvier-février. Journal Libération, 3 janvier. Drame sanglant en Côte d'Ivoire. Hier matin, les policiers d'Abidjan ont effectué une macabre découverte au domicile d'un couple de Français, Monsieur et Madame Lamory, dont le mari dirige une importante entreprise d'exportation de bois exotiques. La villa des Lamory, l'une des plus belles de la capitale ivoirienne, a servi de décor à un massacre particulièrement atroce. Les deux fillettes du couple, 6 et 4 ans, ont été retrouvées dans leur lit tuées d'une balle en pleine tête. L'épouse de l'homme d'affaires, vêtue d'un simple peignoir, gisait dans la salle de bain dans une mare de sang, morte d'un tir dans la nuque à bout portant. Monsieur Lamory, dont la société connaissait de graves difficultés depuis une année, est introuvable. Journal Le Figaro, 3 janvier. Tuerie à Abidjan. Une famille française, les Lamory, a été décimée en Côte d'Ivoire de la manière la plus horrible qui soit. Les deux très jeunes enfants ont été assassinés dans leur sommeil d'une balle dans la tête. L'épouse, abattue selon le même mode opératoire, se trouvait dans la salle de bain. Le triple meurtre aurait eu lieu la dernière semaine de décembre, la date même du jour de Noël n'étant pas exclue par les légistes. Ce sont des voisins, inquiets de ne plus apercevoir de signes de vie dans la propriété depuis quelque temps, qui ont alerté la police. Le mari a disparu. Il est activement recherché par la gendarmerie locale. Selon les premiers éléments de l'enquête délivrés par les autorités du pays, l'homme pourrait avoir été enlevé par un groupe terroriste venu du Mali, dans l'espoir d'obtenir une rançon ou la libération de prisonniers djihadistes. Journal Le Monde, 10 janvier. Une nouvelle affaire du pont de Ligonès ? L'enquête sur le drame d'Abidjan révèle que la situation financière de M. Lamory était catastrophique à la suite de la liquidation judiciaire de son entreprise. Par ailleurs, malgré des dettes d'une ampleur colossale, cet homme aurait intégralement vidé ses comptes et loué une voiture quelques jours avant la tuerie. Son téléphone portable, qui aurait permis de le géolocaliser, a été retrouvé à son domicile, totalement détruit par une balle tirée du même revolver que celui utilisé pour les meurtres. La voiture a été découverte près de la gare routière de Bouaké, ville située à 350 km au nord d'Abidjan. Tous ces éléments convergent vers l'hypothèse d'une fuite minutieusement organisée. Pour cette raison, la piste terroriste est à présent écartée et M. Lamory est considéré par la police comme le principal suspect du triple assassinat. Ces meurtres et la disparition du mari ne sont pas sans rappeler l'affaire Dupont de Ligonnès, du nom de ce Nantais soupçonné en 2011 d'avoir abattu sa femme et ses 4 enfants, et qui, malgré toutes les recherches entreprises à ce jour, n'a jamais été retrouvé. Bialystok, frontière orientale de la Pologne, 23 février. La neige est silence. Elle recouvre sans bruit le paysage, le transformant doucement d'une sublime manière, supprimant les aspérités, arrondissant les formes les plus agressives, amenant la paix et la sérénité. Franck Lavereau se tenait debout face à sa fenêtre, les mains derrière le dos. Et il contemplait avec ravissement les gros flocons qui tombaient en masse sur les bâtiments de son usine, émoussaient les toits, blanchissaient le parking et déposaient une épaisse couche sur les rares voitures encore présentes. La lumière électrique des projecteurs, qui perçait timidement la nuit, ajoutait à l'atmosphère quasi magique de l'instant, suscitant dans l'esprit de Lavereau de vieux souvenirs d'enfance, plus fantasmés que réels, semblables aux nuits de Noël dans les anciens dessins animés de Walt Disney. Paradoxalement, le dernier réveillon avait été dépourvu de neige, absence inhabituelle dans ces confins lointains de l'Est de l'Europe. Elle n'était venue qu'en janvier, sans excès, avant de disparaître début février, et elle semblait vouloir soudain se rattraper et montrer qu'elle n'avait rien perdu de son pouvoir ni de son éclat. Laveureau se sentait bien. À l'abri du froid dans son vaste bureau, il avait le sentiment gratifiant de la réussite professionnelle. Celle d'un homme qui avait bâti avec succès son petit empire personnel. Ayant choisi, avant tout le monde ou presque, 2 ans après l'écroulement du régime communiste en 1989, l'expatriation dans un pays où la main-d'œuvre ne coûtait rien, ou si peu, qu'il était facile d'être compétitif sur les marchés de l'Europe de l'Ouest. Bienheureuse mondialisation, si proche et si tranquille délocalisation. Ah, ces braves Polonais, ces braves Roumains, ces braves Bulgares, qui se contentaient de maigres salaires, loin des grèves et des sempiternelles manifestations et protestations de leurs homologues français. Pour un peu, Laveureau aurait béni les communistes d'avoir cédé aux capitalistes. Capitalistes, ce mot qu'il trouvait désuet le faisait rire. Un pays pauvre, mais non misérable, propre et bien ordonné, doté d'un peuple qu'un labeur ingrat n'effrayait point. Avec les années, Laveureau avait pris du poids, à un rythme qui était allé de pair avec l'augmentation du nombre de ses salariés et de sa fortune. Divorçant de sa première femme au début du nouveau siècle, il s'était remarié avec une jolie Polonaise, d'une quinzaine d'années sa cadette, qui lui avait donné 2 enfants, 2 blondinets aux yeux bleus, dont il était particulièrement fier. Il aurait presque pu dire qu'il avait réalisé toutes ses ambitions et qu'il lui suffisait à présent de jouir sans angoisse des facilités qu'offre l'aisance matérielle. Depuis peu, cependant, un vague remords, un soupçon de culpabilité, une sorte de mauvaise conscience, troublait parfois sa sérénité. C'était ténu, pas grand-chose au fond, un minuscule caillou logé à l'extrémité de la chaussure. Pour s'en débarrasser, il sélectionnait soigneusement ses pensées pour n'user que de celles qui lui procuraient du plaisir. Après tout, c'était aussi un art de vivre, qu'il avait toujours pratiqué et qui lui avait permis tout au long de son existence de passer outre la misère et les injustices du monde. Laveureau se retourna et vint se rasseoir à son bureau. Il aimait ce moment où il se retrouvait seul, ou presque, dans son usine. Peu de temps auparavant, un quart d'heure à peine, il avait gratifié d'un sourire sa secrétaire, venue comme tous les soirs le saluer avant de rentrer chez elle. Sa collaboratrice était une femme attirante. Laveureau la désirait et ne se le cachait pas. Il était du reste certain que la chose était possible. Mais il n'avait jamais rien tenté, et ne le ferait pas, craignant des ennuis sans fin s'il prenait sa secrétaire pour maîtresse. Simple prudence d'un homme qui, l'âge venant, il avait 55 ans, préférait le calme aux situations scabreuses. Il ouvrit le bilan financier du mois de janvier que le comptable lui avait remis en main propre en début d'après-midi. La comptabilité était une discipline qui n'avait cessé de se complexifier avec le temps, truffée de termes obscurs, base amortissable, mode et taux d'amortissement, valeur d'origine et valeur résiduelle. Comme si l'administration fiscale rêvait d'un monde hermétique au profane, où même l'initié tomberait fatalement dans des choses trappes dissimulées dans un maquis de textes modifiés sans relâche. Pour cette raison, le comptable lui préparait un mémo complet qui résumait l'essentiel, ne donnant finalement à son patron que les chiffres nécessaires à la bonne compréhension des résultats du mois. Laveureau s'y plongea avec délices, car son affaire marchait bien, et il savourait les termes « bénéfices » ou « plus-value » comme un enfant suce un sucre d'orge. Il y eut soudain au rez-de-chaussée un grincement inhabituel qui troubla le silence. Était-ce une porte qui venait de s'ouvrir, le battant d'une fenêtre mal fermée, poussée par le vent? Laveureau redressa la tête et écouta. Rien. Il se remit à lire le rapport du comptable. Puis, un nouveau bruit suspect en provenance du rez-de-chaussée l'alarma. Laveureau se leva et jeta un coup d'œil par la fenêtre. La neige redoublait d'intensité et des flocons gros comme des cerises tombaient en flots continus. Laveureau discernait avec peine les 3 ateliers disposés en U, plongés dans l'obscurité qui faisait face au bâtiment administratif où il se trouvait. Le parking était désert.